son nom l'indique, c'est ce qui est étudié, ce qui est réfléchi, ce qui est calculé, ce qui est élaboré. Alors le punctum, c'est ce qui surgit là-dedans. C'est le point, ça vient du point. Ça a donné punctum ponctuel. C'est extraordinaire parce que ponctuel, quand on dit quelqu'un qu'il est ponctuel, ça veut dire qu'il est exact. Et alors c'est extraordinaire parce que le punctum, finalement, eh bien, c'est plus exact que le studium. Le spontané est plus exact que le réfléchi. Tout ça pour vous dire que ce matin, j'en ai eu sur France Inter une illustration tout à fait magnifique. C'était Nathalie Arthaud, l'invitée politique. Et puis à un moment donné, on lui a demandé quel était l'objet de sa nostalgie télévisée. Et elle a cité une série que je ne connaissais pas, l'histoire d'une vache. J'ai déjà oublié le nom, c'est idiot. Je ne sais pas si c'était un dessin animé ou une série pour enfants. Et une vache qui appelait toujours, une vache hypochondriaque qui appelait constamment son vétérinaire. Et alors on lui en a diffusé un extrait. Et elle a eu un rire tout à fait magnifique. C'est-à-dire le rire, ça faisait penser à le rire d'une jeune fille un peu crispée, dont une copine vient de révéler aux autres, ah, elle est amoureuse. Et son rire là, tout le temps où est passé, et après que soit passé cet extrait de sa série préférée, c'était vraiment très très joli.
Bonjour Monsieur Mermet, j'apprécie beaucoup vos émissions, mais il faut bien dire qu'elles sont un peu trop marquées à gauche. Alors, pour rétablir un peu l'équilibre, je voudrais rendre hommage au candidat président qui vient de dévoiler son programme. Homme de vision, il vient de proposer d'avancer de 8 jours le paiement des retraites et de faciliter l'obtention du permis de conduire. C'est la preuve de la grande vision que ce grand président a pour la France. Ces mesures que toute la France attendait vont sûrement lui rapporter un grand nombre de voix. Mais par définition, la majorité silencieuse n'a pas de voix. C'est donc lui qui va se retrouver silencieux. Je suis de droite, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, Monsieur Mermet. Je vais voter à gauche, car je suis audacieux. Et surtout pour permettre à Françoise Hardy de quitter la France. Et ça, c'est une autre bonne nouvelle. Merci à tous. Bon courage. C'était Régis de Vendôme.
À côté de chez nous, il y a un petit pavillon qui était habité par un couple de personnes âgées qui ont été chassées de chez eux par la maladie d'Alzheimer. Donc les pauvres, ils étaient envoyés dans une maison de retraite, j'imagine. Mais leur petit jardin est absolument somptueux ce printemps. Alors je ne sais pas si c'est triste ou joyeux de voir un arrosoir oublié, une paire de sabots, et à côté une profusion en ce moment de tulipes flammées, de jacinthes redevenues sauvages, jacinthes bleues. Il y a un camélia qui s'est déployé sur la terrasse, et tout ça a survécu tout seul, sans soin, sans être taillé, et c'est absolument somptueux. Et on se dit, c'est quand même triste, je crois que si j'en avais pas d'enfant, personne ne reprendra les plantations, je ne sais pas ce que ça va devenir, mais en tout cas, leur petit jardin est magnifique.
Bonjour Daniel, les prochains chiffres de l'emploi publiés par l'INSEE seront plus douteux que fiables. En effet, bon nombre d'enquêteurs n'interrogent plus les familles sur la majorité du territoire. Le mouvement a commencé en novembre 2011 et se poursuit. C'était Christine Duval d'Oise. Bonne journée.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Toujours les oreilles près du front, même quand le front est un jardin à l'abandon, un magnifique jardin luxuriant. Et à l'abandon, pourquoi est-ce que ce ne serait pas ça l'essentiel en ce moment, après tout? Si c'était vrai, ça se saurait. Vous connaissez cette phrase-là? Tous ceux qui luttent contre un tabou, qui se battent pour un bout de vérité dans leur coin, qui essayent de faire émerger quelque chose, de faire apparaître à la conscience collective quelque chose qui leur tient à cœur... une vérité, une chose oubliée, méprisée, se heurte à cette phrase. Oh bah oui, mais si c'était vrai, ça se saurait. Beaucoup d'exemples de ça hein, dans l'histoire, dans nos mémoires. Je pense évidemment au 17 octobre 1961. Longtemps, On nous disait, ah oui, mais si c'était vrai, ça se saurait. Il a fallu attendre une trentaine d'années pour que la mémoire émerge, et peu à peu, parmi les obstacles, la vérité se ferait un chemin. Chez nos voisins espagnols, c'est une histoire invraisemblable qui s'est produite pendant, c'est pas 30 ans là, c'est 70 ans. Il a fallu 70 ans pour que l'Espagne, les Espagnols, osent regarder une monstruosité en face. Cette monstruosité, c'est le vol des enfants. Vous avez sans doute déjà entendu un peu parler de cette histoire. On estime qu'entre 1940 et 1990, 300 000 enfants auraient été volés à la naissance en Espagne. D'abord pour des raisons idéologiques, on va en parler, idéologiques, c'est-à-dire l'idéologie de Franco et de ses conseillers et d'un de ses conseillers, un savant, un psychiatre, qui voulait lutter contre le gène rouge, c'est-à-dire un gène qui serait nocif et qu'il faudrait éradiquer, qui serait commun à tous ceux que ces gens-là appelaient les rouges, c'est-à-dire les républicains. Et puis, peu à peu, ce vol d'enfants est devenu un business. Jusqu'à ce qu'on découvre la vérité. Alors, on va voir avec notre ami sociologue qui va dire, on le savait toujours, il y avait un bruit de fond. Il utilise cette formule. Il y avait un bruit de fond. Mais il a fallu attendre ces 2-3 dernières années, pas davantage, pour que la vérité, enfin, explose et saute à la tête, au cœur de l'Espagne. L'Espagne, aujourd'hui, vit une guerre sociale qui va en s'étendant, mais il y a aussi cette guerre de la mémoire. L'Espagne est en proie à une guerre de la mémoire, dont le juge Garzón est une des figures emblématiques. C'est que le franquisme n'a pas jamais vraiment quitté ce pays. Il est toujours là, présent, rampant, mais il est toujours bel et bien là. Et il explique le silence, ce si long silence par rapport à quelque chose d'aussi énorme que le vol d'enfants et quelque chose d'aussi essentiel. Il n'y a rien de plus important dans nos vies et celles de nos compagnes que mettre au monde un être humain. Eh bien, 300 000 fois, ces bébés ont été volés à leur mère à la naissance. Alors, ce qui est stupéfiant, c'est que nous ne le sachions pas davantage ici, en France, ce qui arrive à nos voisins espagnols qui sont en proie à cette histoire. C'est ce qui les préoccupe probablement le plus aujourd'hui, pour des raisons toutes évidentes. Et le fait que nous ne le sachions pas, ou peu, ou insuffisamment, montre que l'Europe ne se fait pas. L'Europe qu'on nous avait promis, une Europe des peuples, une Europe sociale, une Europe... Et bien sûr, se fait pas. Il y a un documentaire qui passera demain, je crois que c'est sur France 4 ou France 5, je vous donnerai des précisions tout à l'heure, sur ce sujet. Le thème fait son chemin aussi parmi nous, peu à peu, mais hante littéralement l'Espagne aujourd'hui. Et c'est notre sujet du jour, enfant volé d'Espagne. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Amis de Lille et du Nord, bonjour. C'est la dernière ligne droite. Vous ne savez plus pour qui voter face au grand choix qui nous est offert. Venez donc ce soir à 20h au Café Repère L'Imaginaire dans le Vieux-Lille. Nous en discuterons tous ensemble. Venez nombreux à ce soir.
Nous sommes actuellement en grève depuis 26 jours devant le Campanile Première Classe Suresne du groupe Louvre-Hôtel qui pratique une véritable délocalisation sur place en sous-traitant le travail des femmes de chambre et des gouvernantes et en les payant à la tâche. Ces salariés travaillent plusieurs heures dans cet hôtel chaque jour et sont payés selon une productivité démentielle de 4 chambres à 4 chambres 25 à l'heure, au nombre de chambres qu'elles effectuent et non à l'heure de travail passée sur l'hôtel. Le triste résultat de cette opération, c'est qu'on est très largement en dessous du SMIC pour nombre d'entre elles. On a calculé que la chambre était payée environ 1,80€ à ces femmes de chambre et qu'elles touchaient l'équivalent de 5€ de l'heure. Nous sommes dans le deuxième groupe hôtelier au niveau français qui détient la chaîne d'hôtels économiques première classe Campanile Kyriad, où les chambres se payent de 60 à 150€ par jour. Voilà, donc c'est un petit peu le silence radio sur notre lutte. On a besoin de soutien. Merci.
Nos ocupamos de todo.
Nous nous occupons de tout.
Era la frase que se empleaba sistemáticamente. Nos ocupamos de todo.
C'était la phrase qui était utilisée systématiquement dans ces
Cuando
cas-là.
Se le decía a la madre que su niño había muerto,
quand on disait à une mère que son enfant était mort.
La madre decía, quiero ver a mi hijo para enterrarle yo.
Et la femme disait, je veux voir mon enfant pour l'enterrer moi-même.
Systématicamente.
Systématiquement.
Se le decía siempre. Nos ocupamos de
on
todo.
On lui disait, nous nous occupons de tout.
Pues eso, pues a las presas políticas
que
estaban embarazadas, pues claro, les quitaban a los bebés.
On leur enlevait les enfants.
Y ellos querían hacerlo, ¿sabes? Que, o sea, que este país, por así decir, fuera pues exclusivamente de derechas.
Et ils voulaient que ce pays soit
de la ideología
de ellos. De droite, de leur idéologie. Acquis à leur idéologie.
Pour Franco, c'est le temps du triomphe. Mussolini télégraphie.
Je vous remercie d'avoir consenti aux troupes légionnaires le haut honneur de défiler devant vous dans Madrid reconquise pour l'Espagne une, libre et grande, que vous êtes en train de construire.
Les troupes franquistes ferment la dernière frontière. Les vaincus ne pourront plus choisir l'exil.
Parce que si mes calculs ne fonctionnent mal, ici il y a 300 000 familles affectées.
Parce que si mes calculs sont bons, moi j'estime qu'il y a 300 000 familles qui sont affectées par ce drame.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base où j'y suis, avec Antoine Chao. Les enfants volés d'Espagne.
Flight number 2, arriving from...
Alors là, il y a tout un attroupement de presse parce qu'en fait, il y a la mère de Maria Luisa qui vient d'arriver et une autre de ses filles. Et Maria Luisa est en train d'être interviewée un peu plus loin, on ne sait pas exactement où, avec sa fille justement retrouvée.
C'est un feuilleton qui passionne tout le pays. Il y a une quarantaine de caméras qui sont braquées sur cette femme.
Ah voilà, Maria Luisa vient d'arriver et elle se ferait un passage au milieu de l'arène médiatique et elle va faire un petit speech avant donc l'audience qui doit avoir lieu.
Cette passion hein, pour cette histoire.
Ça fait beaucoup d'années qu'on attendait ce moment et il est enfin arrivé. La justice avance lentement, mais j'espère qu'à partir de maintenant, elle va faire des pas de géant. Nous ne sommes pas un cas isolé. Nous sommes des milliers à être affectés. Et s'il vous plaît, c'est l'heure de commencer à enquêter.
Et tout ça, c'est Sœur Maria.
C'est Sœur Maria Gomez Balbuena qui, en l'espace de quelques minutes, m'a dit que ma fille était morte. Après qu'elle allait la donner en adoption à une famille française. Et plus tard, elle m'a dit avec beaucoup de cruauté, je vais te la prendre parce que celle-là, tu ne la connais pas. Tu en as une autre de 2 ans et demi que je vais te retirer aussi. Et en plus, tu iras en prison pour adultère.
Cuando la boca está cerrada, mosca no entra. C'est un proverbe espagnol qui, à lui tout seul, dit ce long silence. Ce très très long silence qui a duré pendant les 36 années de la dictature et qui dure toujours depuis. Quand la bouche est fermée, les mouches n'y entrent pas. La loi du silence. On a intérêt à se taire, on a intérêt à la fermer, on a intérêt à la boucler. Et qui dit ça? Qui sont ces fermeurs de bec, les cloueurs de bec? Eh bien, c'est toujours les mêmes. C'est ceux qui ont pris le pouvoir sur la République espagnole. C'est ceux qui ont fait vivre à l'Espagne cet enfer et ce calvaire qui fut la dictature, mais qui ensuite, sous le masque de l'amnistie, ont voulu l'amnésie sous le masque de la démocratie. Mais qui ont imposé, qui ont réussi à mettre en place une dictature rampante, en tous les cas celle du silence. Celle du silence sur cette monstruosité que je viens de décrire, qui est celle de ces enfants volés à la naissance, d'abord pour des raisons, à partir de 1939, pour des raisons idéologiques. Il fallait, disait le bon docteur Antonio Valero Nagueira, que les enfants soient débarrassés de ce gène qu'est le marxisme. Il voyait dans le marxisme une maladie mentale dont il fallait guérir et ses enfants et l'Espagne tout entière, en confiant les enfants dès leur naissance à des bonnes familles catholiques et franquistes. On estime aujourd'hui qu'environ entre les années 40 et 50, 30 000 enfants ont été ainsi confiés, entre guillemets, à des bonnes et braves familles du droit chemin espagnol tel que les franquistes l'imaginaient. Et puis, il a fallu mettre en place un tel système, une telle complicité du médecin, de la sage-femme, de l'infirmière, des religieuses qui, à l'époque, régnaient sur le monde hospitalier, comme dans d'autres parties du monde, la France par exemple. Il fallait leur complicité, il fallait ensuite la complicité des fonctionnaires, etc., pour que l'enfant, soustrait à sa mère, arrive jusqu'à ses familles qui militaient pour un Espagnol nouveau. Alors ce mécanisme, eh bien, il est resté en place et peu à peu, on s'est aperçu que c'était rentable aussi de fournir des enfants à ceux qui n'en avaient pas. Alors c'est devenu un commerce, c'est devenu un business, c'est devenu mafieux, tout simplement. Et ça a continué, ça a continué. Alors, bien sûr que on le savait, mais il y avait cette bouche qu'il fallait garder close pour pas que les mouches y entrent. Il fallait se taire. Il y avait un bruit de fond, nous dit-on. Mais ça ne sortait pas, ça ne sortait pas. Et puis, il y a peu de temps, il y a eu bien sûr des choses. Il y a eu un article en telle année, un documentaire en telle autre. Mais à chaque fois, les cloueurs de bec arrivaient à remettre le tapis par-dessus. Et puis il y a seulement 2-3 ans, pour des choses qui ont commencé en 1940, il y a seulement 2-3 ans, là cette fois ça a explosé, peut-être que Internet et les réseaux sociaux y sont pour quelque chose, et soudain, voilà, l'Espagne en proie, en prise, avec cette mémoire, avec cette douleur, avec cette lutte, qui est plus générale que ça. Je parlais de guerre de l'histoire. On peut vraiment parler de guerre de l'histoire actuellement en Espagne, qui ne se limite pas à ce scandale. Il y en a d'autres, les fosses, vous savez, où des républicains ont été enterrés après avoir été abattus sommairement. Ça aussi, ça fait. C'est un enjeu et une guerre extrêmement importante. Donc voilà ce qui se passe actuellement chez nos voisins. Le mystère, bien sûr, c'est savoir comment est-ce qu'un peuple peut si longtemps se soumettre, être soumis au silence. C'est des mécanismes complexes qui conduisent des gens qui nous ressemblent dans une Europe ouverte, démocratique, industrielle, tout ce qu'on voudra. Et c'est un étonnement que ce refoulement collectif. En tout cas, aujourd'hui, ça explose et c'est devenu une conversation permanente, évidemment. On se dit, mais alors, est-ce que ma mère est vraiment ma mère? Tout le monde se pose cette question. tous les gens d'un certain âge se posent cette question. Et puis, il y a toutes ces, ces femmes qui ont eu des enfants, qui ont fait des fausses couches et qui se disent, mais... et qui ont, peu à peu, bon an, mal an, fait le deuil de ce drame, et qui leur est arrivé, et qui se disent, mais si ça se trouve, mais enfin, mon enfant m'a peut-être été dérobé à la naissance, et c'était autant de douleurs qui, alors, se réveillent. Vous avez compris, on est dans l'essentiel, on est dans le crucial, on est dans l'origine de chacun, l'identité de chacun. Et l'identité d'un pays si proche, l'Espagne, que quelque chose de là nous regarde dans les yeux et nous incite à ouvrir la bouche, même si les mouches devaient y rentrer. C'est jusqu'à 16 heures, c'est là-bas. Si j'y suis, les enfants volés d'Espagne.
Santa y buena, cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa. Dime lo que tiene, reina de mi casa. Tu madre, la pobre, no sé dónde está. Dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime lo que tienes. Dime la verdad. Mi niña Lola, mientras que viva tu padre no estás en el mundo sola. Mi niña Lola, mientras que viva tu padre no estás en el mundo sola. Estás en el mundo sola, mi niña Lola, mi niña Lola. Mientras que viva tu padre, no estás en el mundo sola.
Je suis née à l'hôpital Santa Cristina à Madrid. Je suis née à 4 heures moins le quart, le 31 mars 1982. Comme nom, elle m'a donné Maria Guerrero Martínez. Et j'aimerais la voir pour voir comment elle est, son visage. Moi, je veux juste la voir et l'embrasser. Rien de plus.
Voilà, voilà, c'est une émission de télé de 1996 sur Antena. Voilà, une émission un peu du genre perdu de vue, vous voyez, quelqu'un qui vient dire, ah ben voilà, je ne sais pas qui est ma mère, je suis avec mon, avec Alejandro qui est mon papa adoptif, j'aimerais bien un jour retrouver ma mère, voyez mon physique, voyez qui je suis, j'aimerais bien la serrer dans mes bras, tout simplement, émotion. Vous connaissez ce genre d'émission. Et puis, en 2011, donc 1996-2011, on retrouve Maria del Pilar, cette femme qui, depuis 15 ans, cherche sa mère. Entre les deux dates, il s'est passé qu'il y a eu cette explosion, cette découverte de l'histoire de ces bébés volés. Et on peut supposer que une femme qui s'appelle Maria Luisa pourrait être susceptible d'être la maman de Pilar. On est dans cette émission de 2011.
seguimos en directo en el diario, en Antena 3.
On continue en direct dans El Diario sur Antena 3. Cet après-midi, nous avons sur le plateau Maria del Pilar avec son père adoptif Alejandro. Ça fait 15 ans qu'il cherche la famille biologique de Maria del Pilar. Alejandro soupçonne d'avoir été trompé lui-même et que sa fille est victime de cette affaire, affaire supposée, de vente et d'achat d'enfants. Il y a quelques années ici, en Espagne. Et d'autre part, nous avons Luisa, une femme qui s'est vue obligée de renoncer à sa fille. Elle dit aussi qu'elle a été trompée. Il y a beaucoup de choses qui coïncident. Elles ont toutes deux fait un test ADN. Bien entendu, elles ne sont pas là par hasard. L'équipe de notre émission a fait un travail d'investigation exhaustif pour en arriver là. Une enquête que nous allons résumer tout de suite.
Alejandro buscaba la madre biológica de su hija Pilar.
Alexandre cherchait la mère biologique de sa fille Pilar et soupçonnait qu'il puisse s'agir du cas d'un enfant volé.
Alors voilà, en 2011, on se passionne pour ces histoires d'enfants volés sur le plateau de cette émission très populaire en Espagne. On a d'un côté Maria Luisa, on n'ose pas encore dire la mère parce qu'on n'en est pas certain, mais il y a cette femme plus jeune de l'autre côté. Elles sont de chaque côté de la scène, de chaque côté de votre téléviseur, et on va savoir si elles sont mère et fille puisque le test ADN a été fait, et on va le savoir après une page de publicité.
Parce que personne n'a le droit de décider qui a un enfant et qui n'en a pas. Parce que personne n'a le droit de manipuler des vies. Aujourd'hui, l'émission El Diario et l'ADN nous dévoilent la vérité. Selon les examens génétiques réalisés, on peut conclure que Pilar, je vous demande de regarder par ici.
Si, son
madre! Oui, elles sont mère et fille!
Voilà, l'émotion, elles sont mère et fille. Le test ADN l'a montré de manière claire et nette. Alors évidemment, cette scène-là a ébranlé l'Espagne, a ébranlé la conscience, évidemment l'émotion, la conscience de tout ce pays qui découvre cette histoire et qui nous conduit à, évidemment, à l'émotion passée, à se demander s'il n'y a pas des responsabilités quand même dans cette histoire de 300 000 enfants qui auraient été volés. Y a-t-il des responsabilités ? Les responsables possibles sont très difficiles à regarder en face pour cette sainte Espagne, parce que très vite, eh bien, on tombe sur l'Église, on tombe sur la responsabilité des religieux et des religieuses surtout. Et voilà que ce 2 avril, nous étions devant le tribunal de Plaza del Castilla où la famille venait déposer plainte contre, espère-t-on, des responsables. Et parmi ces responsables, la toute première responsable serait, figurez-vous, une religieuse, une bonne sœur de 84 ans qui aurait volé ses enfants, contribué au vol de ses enfants de manière systématique. Bien sûr, elle s'en défend, mais aujourd'hui, elle est bel et bien accusée. Là, on est devant le tribunal à Madrid. Racontez-nous l'affaire qui va être jugée.
Sí, el caso es de María Luisa.
C'est le cas de María Luisa.
Esta chica, ella tuvo un bebé
donc
en Santa Cristina.
A eu un bébé à Santa Cristina.
Y entonces bueno, pues se lo quitaron, le dijeron
et
que
ont pris son enfant.
Le dijeron pues eso, que el bebé pues que había muerto.
Ils lui ont dit qu'il était mort.
Y ella pues claro, pues no estaban convencida.
Mais
no,
elle était pas convaincue.
Y nada, ella siempre empezó a investigar.
Elle a commencé à faire des recherches.
Et encontró, pues claro, indicios de que su hija pues estaba viva.
Elle a trouvé des indices comme quoi sa fille était vivante.
La hija también buscaba por otro lado.
Parce que la fille aussi avait des doutes et elle cherchait de son côté.
El padre adoptivo la ayudó, sí.
Et le père adoptif a aidé la fille.
Eso es muy importante, es muy importante.
C'est ça qui est très important.
Que los adoptados que saben que son adoptados y que ellos...
Il faut que les adoptés, les enfants qui le savent, fassent des recherches.
Si ven que no se parecen a sus padres son mayores...
S'ils voient que leurs parents sont âgés, qu'ils ne leur ressemblent pas, il faut qu'ils fassent des recherches.
Pues que ellos, pues que investiguen, que no van... Nosotros no queremos quitar el cariño que tienen ya.
Parce que nous, on ne veut pas leur retirer l'amour qu'ils ont de leurs parents adoptifs.
Pero que sepan la verdad.
Mais on veut qu'ils sachent la vérité.
Parlez-nous de la bonne sœur, alors.
Sor María Balbuena.
Sor María Balbuena.
84 años.
Elle a 84 ans.
Está mejor que nosotros.
Mais elle est en pleine forme, elle est mieux que nous.
Dios la ha ayudado mucho.
Parce que Dieu a dû beaucoup l'aider.
Muchísimos, muchísimos, muchísimos.
Elle a sûrement volé beaucoup d'enfants. Énormément.
Ella lo hizo por caridad.
Elle dit qu'elle l'a fait par charité, par souci
de charité.
Ella
dice que lo hizo por caridad.
C'est ce qu'elle dit.
Entonces, eso ya la justicia.
Alors ça, la justice, qu'est-ce qu'elle va pouvoir
faire? Serán los que tengan que decidir.
C'est eux qui devront décider.
Alors l'audience est aujourd'hui avec Maria Luisa qui accuse la bonne sœur, la sœur Maria Balbuena.
Exactamente, sí.
Tout à fait, c'est ça.
Et vous êtes venu assister au...
Bueno, si puedo entrar, entraré, y si no, pues me quedaré
moi,
aquí.
Si rentrer,
he venido a acompañarla y a darle muchos
mais,
ánimos.
Mais moi, je suis venu ici pour l'accompagner et pour lui donner du courage.
Hola, soy Juani.
Moi, je suis Juani.
Et pourquoi vous êtes là aujourd'hui?
Pues nada, vengo a acompañar a María Luisa.
Moi, je viens accompagner María Luisa.
Porque se supone que una monja le quitó a su niña.
Parce qu'on suppose qu'une bonne sœur lui a pris son enfant.
De la noche a la mañana le dice que había fallecido.
Du jour au lendemain, on lui a dit que son enfant était mort.
Y luego le dice que la niña ya estaba dada en adopción y que no la reclamara.
Et après, la bonne sœur lui a dit qu'en fait son enfant avait été adopté, que c'était pas la peine qu'elle essaye de le réclamer.
La monja le dijo que era una adúltera porque era madre soltera y tenía otra niña y la amenazó con quitarle la segunda niña.
Et la bonne sœur lui a dit que de toute manière c'était un adultère parce qu'elle était célibataire et que si elle faisait des problèmes, on lui retirerait son deuxième enfant.
En el 82.
Ça c'était en 82.
En el hospital Santa Cristina.
Dans l'hôpital Santa Cristina, oui.
Alors, vous avez une histoire aussi, vous cherchez votre frère.
Yo estoy buscando a mi hermano del año 63, también de Santa Cristina.
Moi aussi, je cherche mon frère qui a disparu en 63 dans le même hôpital, à Santa Cristina.
Mi madre tuvo un niño y según siempre nos dijeron que el niño había fallecido.
Ma mère a eu un enfant, un fils, et on nous a tout de suite dit qu'il était mort.
Y toda la familia siempre pensó que estaba enterrado, que había fallecido.
Et nous, on a toujours pensé, sí, toute la famille a sí, pensé qu'il était mort, sí, qu'il avait été enterré.
Y entonces, bueno, pues mi madre echaba como en cara de que mi familia no había ido al enterrillo de su niño, ¿no?
Alors ma mère était toujours très triste que nous ne soyons pas allés, que la famille ne soit pas, sí, allée à l'enterrement de l'enfant.
Y ella siempre tenía ahí la duda de dónde estaba su niño.
Et donc elle a toujours douté de savoir où était son enfant.
Bueno, pues ya a raíz de salir toda esta historia de los medios y de los niños robados.
Et quand toute cette histoire des enfants volés est sortie dans la presse,
pues yo empecé a investigar,
j'ai commencé à faire des recherches.
Yo quería saber si mi hermano realmente había fallecido.
Donc je voulais savoir s'il était vraiment mort, s'il était, sí, vraiment décédé.
À partir de quand vous vous êtes intéressé à ça?
Pues yo llevo como dos años así intentando investigar.
Moi, ça fait deux ans maintenant que je cherche.
Yo esto no lo creía ni, vamos, ni por la remota idea. Lo que pasa que yo estaba...
Moi, j'avais pas la moindre idée que c'était, sí, possible, tout ça.
Yo estaba ayudando a mi amiga Marisol, desde, porque ellas le quitaron dos gemelos en el año 89.
Moi, j'étais en train d'aider ma copine Marisol, parce qu'à, sí, elle, on lui a enlevé deux jumeaux en 89.
Yo llevaba ya dos o tres años ayudándola a buscar abogados, denunciando...
Ça faisait deux, trois, sí, ans que je l'aidais, sí, on cherchait des avocats, sí, on dénonçait la situation.
Entonces ya esto, antes de que saliera esto, nosotros ya llevábamos dos o tres años investigando el fallecimiento de mi amiga.
Avant même, sí, que ça sorte dans la presse grand public, nous, ça faisait déjà deux ans qu'on, sí, qu'on travaillait sur ce thème avec Marisol.
Y ya al empezar todo esto de Santa Cristina, de la monja y tal, pues claro, ya mi familia, mi tía, empezó a decirme, oye, Juani, que yo no sé que aquello de tu hermano fue totabú, y ahí a raíz empezamos a investigar.
Et quand l'histoire de la clinique Santa Cristina est sortie, alors là, toute ma famille s'est dit, mais dis donc, ces doutes qu'on a sur ton frère et tout ça, il faut aussi qu'on fasse des recherches.
Yo solo único quiero saber que me digan qué es lo que pasó.
Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé.
Si está fallecido, si está vivo. Je ne sais pas
s'il est mort, s'il est vivant.
Yo no tengo ni idea. Yo lo que quiero saber... que los curas, l'arzobispo, nos den la documentación que la tienen ellos, los libros de adopciones, porque ellos lo hacían
parce qu'ils ont cette information. Parce qu'ils notaient tout ça, c'est eux qui faisaient tout ça.
Quiero saber la verdad.
Moi, je veux savoir
la
vérité.
Verdad que pasó con mi hermano.
La vérité, qu'est-ce qui s'est passé avec mon frère?
No hay dinero en el mundo para pagar el daño que han hecho a tantas familias.
Il n'y a pas assez d'argent dans le monde pour soigner tout le mal que ces gens ont fait aux familles.
Nadie tiene derecho a quitar un hijo a una madre.
Personne n'a le droit d'enlever un enfant à une mère. Personne.
Alors, nadie.
Ni un cura.
La responsabilité pour vous, c'est l'Église.
En mi caso, sí.
Dans mon cas personnel,
una,
oui.
En mi caso, lo hizo una monja y un,
c'est une bonne sœur.
Un cura.
Et un curé.
Sí.
Et la grande majorité, oui.
Esto, toda la Iglesia, vamos a ver, yo no pongo en duda la Iglesia, pero detrás de esa monja y ese cura tiene que haber gente más alta y más responsable.
Moi, je ne mets pas en cause toute l'Église, mais derrière ce curé et cette bonne sœur, il doit y avoir des responsables qui soient
haut
placés dans l'Église. Ils
ne pouvaient
pas faire ça tout seul.
Más arriba que estos dos.
Il y a quelqu'un au-dessus de ces deux-là.
Yo no sé si sería económico, si sería por caridad, yo no tengo ni idea.
Si c'était économique ou si c'était de la charité.
Porque mi madre estaba casada, era su primer hijo.
Parce que ma mère était mariée, c'était son premier enfant.
Juan Elias.
Il s'appelait Juan Elias.
Ella tuvo a su niño, le dijeron que falleció.
Elle a eu cet enfant, on lui a dit qu'il était décédé.
Y bueno, y luego de hecho a mi hermano lo enterraron de que éramos pobres, que no teníamos dinero.
Et comme nous, on n'avait pas d'argent, on était pauvres, ils ont dit qu'ils allaient s'occuper de l'enterrement.
Mi padre en aquellos años trabajaba en Pegaso Iveco, que es una empresa muy importante.
Mon père travaillait dans une grande entreprise de Pegaso, de construction automobile. Camions.
Et les gens qui ont adopté, qui sont les gens qui adoptaient?
Pues alguien muy poderosa, alguien por encima de que no podrían tener hijos y querían un hijo a tu costa.
Des gens qui avaient les moyens, qui pouvaient pas avoir d'enfants et qui voulaient avoir coûte que coûte des enfants.
Estoy convencida que alguien que necesitara un hijo, yo qué sé, es que no lo entiendo.
Est-ce que vous êtes d'une famille républicaine, des gens de gauche?
Empezó a raíz de ahí.
Ça a commencé à ce moment-là, oui.
Ouais. Alors si je comprends bien, ça a commencé après la guerre civile, et là, ça a d'abord été quelque chose d'idéologique. Il s'agissait de refaire une race de bons Espagnols, hein, en modifiant les enfants. Ça, ça a été d'abord ça, et ensuite, c'est devenu un business.
Exactement. À las políticas,
et aux prisonnières qui politiques embarazadas, qui étaient
enceintes, a los bebés,
on leur enlevait les enfants.
Et ils querían hacer que este país, por así decir, fuera pues exclusivamente de derechas.
Et ils voulaient que ce pays soit
de la
exclusivement de
ellos.
Droite, de leur idéologie. Acquis à leur idéologie.
On estime à 30 000 le nombre d'enfants qui auraient été comme ça des victimes de cette idéologie.
Y siguió.
Et ça a continué.
Y había negocio. Siguieron.
Ben oui, il y avait un business, un commerce qui s'est mis en place à ce moment-là.
Qui est-ce qui a découvert ça? C'est le juge Garzón qui a découvert toute cette histoire.
Él hizo lo de la memoria histórica, lo que parte.
Lo que pasa. Il a travaillé sur la mémoire historique.
Lo que pasa que él agregó también lo de los niños robados.
Donc il a ajouté cette histoire des enfants volés à tout le travail qu'il a fait sur la mémoire historique de la guerre civile.
14 mai 2010, Baltasar Garzón, le juge le plus connu d'Espagne, l'homme qui a fait arrêter Pinochet, vient d'être officiellement suspendu de ses fonctions.
France 24, 14 juillet 2010.
Moment d'émotion, tout le personnel de l'Audience nationale est là. Après 2 mois de procédure, l'Espagne est sous le choc. Son juge vedette vient de tomber pour avoir osé enquêter sur les crimes du franquisme. Dans la rue, ils sont des centaines à manifester. Dans la foule, Marina Redondo, 28 ans. Son arrière-grand-père a été fusillé sans procès par les milices franquistes.
Garzón, c'est le seul homme qui a pris le parti des victimes. Et elles sont nombreuses. Et vous voyez le résultat.
1936, les élections générales. Le Front populaire l'emporte avec 4 millions de voix contre 3 millions et demi à la droite. Il obtient la majorité absolue au Parlement espagnol, les Cortes.
Mourir à Madrid.
La personne sacrée de l'Espagne est en danger.
un film de Frédéric Rossi.
Madrid, juillet 1936, les garnisons du Maroc se sont soulevées contre la République. Francisco Franco déclare à la radio de Tétouan.
Vous tous, qui ressentez le saint amour de l'Espagne, vous tous, la nation vous appelle à sa défense. L'armée a décidé de rétablir l'ordre en Espagne.
L'archiprêtre de Burgos dit pendant la grand-messe, ô vous qui m'écoutez, vous qui vous donnez le nom de chrétien, pas de pardon pour les destructeurs des églises et les assassins des saints prêtres. Que leur semence soit écrasée, la mauvaise semence, la semence du démon, car, en vérité, les fils de Belzébuth sont aussi les ennemis de Dieu.
Las tierras, las tierras de España, la grande, la sola, desiertas llanuras. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, resuenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, nadie que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar.
Mi nombre es Francisco González de Tena.
Donc je m'appelle Francisco González de Tena.
Soy doctor en sociología.
Je suis docteur en sociologie.
Et en philologie.
Et en philologie.
On voudrait savoir quand est-ce que cette histoire a commencé. Parce qu'on nous dit, ça a commencé dans les années 40 et 50, il y a eu environ 30 000 histoires de bébés volés. Mais ce sont des histoires liées au franquisme. Il y avait là, derrière ça, une volonté idéologique, et c'était l'illustration, la mise en pratique d'un psychiatre proche du général Franco et qui s'appelait
Vallejo Nájera.
Voilà, Antonio Valero Nájera.
Antonio Valero Nájera, qui était un psychiatre militaire et qui, qu'on peut inscrire dans la longue liste des scientifiques, des, en l'occurrence, psychiatres, qui ont mis leur savoir, leur prestige et leur autorité au service de la pire des tyrannies, en contribuant à élaborer, à produire, à fabriquer une race pure d'Espagnol, un homme nouveau. Le mythe de l'homme nouveau qui s'est développé à la fin du 19e siècle a connu un certain nombre de fortunes épouvantables au cours du 20e siècle. Les soviétiques voulaient faire un homme nouveau, les nazis voulaient faire un homme nouveau, et le mythe de l'homme nouveau, on le retrouve aussi dans le sionisme, on le retrouve aussi sous la plume du Che et dans les discours de Che Guevara. Et c'est ainsi, on a pensé qu'il fallait purifier, en somme, pour arriver à l'homme idéal qui serait l'artisan, l'élément indispensable à la société idéale. Et ce psychiatre a été l'artisan de cette pratique et de ce qui a été au départ
le vol des enfants. On est avec Francisco González de Tena, qui est un de ceux qui chaque jour se penche sur cette histoire et qui est passionné par cette histoire, pas seulement comme un phénomène évidemment qui intéresse un sociologue, le sociologue qu'il est, l'intellectuel qu'il est, mais comme une histoire qui concerne véritablement son pays et, comme je viens de le suggérer, bien au-delà de son pays.
Donc
le début de cette histoire ténébreuse,
hay una voluntad política de perpetuar una raza ideal.
Il y a une volonté politique de perpétuer une race idéale.
Porque Franco se inventa una raza nueva, lo rojo.
Parce que Franco, effectivement, invente une race nouvelle qui est celle du rouge.
Para justificar la limpieza étnica.
Pour justifier le nettoyage ethnique.
Ahí, digamos, hay una voluntad de eliminar a todo aquel que sea o parezca rojo.
Donc il y a une volonté de faire disparaître tous ceux qui sont ou qui paraissent rouges.
De hecho, la palabra que emplean desde el principio es la limpieza. La palabra limpieza aparece desde el principio.
Et le mot qui apparaît et depuis le début, c'est le mot nettoyage.
Para justificar esa limpieza, a las personas hay que etiquetarlas. Es lo que decimos en sociología, etiquetar a una persona.
Et pour justifier ce nettoyage, il faut étiqueter les gens. C'est le mot qu'on utilise en sociologie.
Significa identificarla.
Les identifier.
En los primeros meses, e incluso el primer año, 30-41, había muchas mujeres encarceladas arbitrariamente.
Dans les premiers mois et la première année, il y a eu beaucoup de femmes qui ont été incarcérées de façon arbitraire en 40-41.
Sin ningún procedimiento jurídico legal.
Sans aucun processus juridique légal.
Entonces, es lógico pensar que en la mente de esta gente, las mujeres rojas embarazadas estaban contaminadas.
Donc il était clair pour ces gens que les femmes rouges enceintes étaient contaminées.
Esa expresión no me la he inventado yo, es de Antonio Vallejo Nájera.
Je n'invente pas cette expression, c'est une expression du psychiatre militaire Vallejo Nájera.
Él consigue el permiso de Franco para poder actuar en plan experimental en las cárceles fundamentalement de Malaga, qui avait été...
Il obtient le droit auprès de Franco d'opérer dans les prisons de Malaga, de faire des expériences.
Aquellas ciudades que habían ofrecido mayor resistencia à l'avance franquista.
Les villes qui avaient le plus résisté à l'avance franquiste.
Malaga et Sevilla.
Malaga et Sevilla.
En Andalucía. Él buscaba una cosa que se llamaba el gen rojo.
Donc lui cherchait quelque chose, il cherchait le gène rouge.
Presumía que el fenotipo...
Et il pensait que qu'un phénotype,
el fenotipo, l'apariencia física, le daba la pista para buscar el genotipo.
Et il pensait que l'apparence physique donnerait la piste pour trouver le génotype.
Sí. De hecho, llegó a asegurar que las mujeres rojas eran auténticos demonios comparados con los hombres, mucho más malos que los hombres.
Il en déduisait que les femmes étaient pires que les hommes, étaient des démons rouges.
De hecho, entonces se establece una vía abierta para arrebatar todos los niños nacidos en cautividad a esas mujeres presuntamente contaminadas.
Et à partir de ce moment-là, la voie était ouverte pour prendre tous les enfants à ces femmes qui étaient, selon lui, contaminées.
Pour illustrer ce que dit notre ami, je peux citer le docteur Antonio Vallejo qui disait « La relation intime existant entre le marxisme et l'infériorité mentale sont évidentes. La mise à l'écart des sujets dès l'enfance pourrait affranchir la société de cette idéologie. » Voilà, ainsi parlait le bon docteur Vallejo.
Presumen de que van a crear un hombre nuevo.
Parce qu'ils avaient l'idée de créer un homme nouveau.
Sí, el hombre nuevo. El hombre de la España nueva.
Donc l'homme de la nouvelle Espagne.
Ils n'étaient pas les seuls. Staline voulait faire la même chose. Hitler voulait faire la même chose. C'était la mode à l'époque, dans les années 30, de faire un homme nouveau.
C'est la race.
Mais c'est la race, la question de la race.
Es el concepto de raza. En antropología ya estaba en desuso.
Et qui était déjà plus d'actualité en sociologie.
Des années 20 et 30, la race ya no tiene sentido.
Donc dans les années 20 et 30, déjà le concept de la race n'a plus de sens.
Ya que el genotipo y el fenotipo no coincidían.
On avait compris que le génotype et le phénotype ne coïncidaient pas.
Todo tan difundido, mezclado que no había sentido
que tout était mélangé et on ne pouvait pas différencier.
Entonces esto que empieza por ser una especie de limpieza étnica,
ce qui commence par être un nettoyage ethnique,
con el tiempo ya no tiene justificación. Y se aplica un nuevo baremo.
Perd sa justification avec le temps et un nouveau barème se met en place.
Que es el concepto de la caridad cristiana.
Qui est celui de la charité chrétienne.
Nosotros estamos obligados, hablo de nosotros, los católicos a rajatabla, estamos...
Alors, nous, les catholiques, comme on est purs,
estamos
pur jus.
Obligados a salvar estos niños que vienen a una familia desfavorecida para llevarlos a una familia...
On est obligé de sauver ces enfants qui sont nés dans des familles défavorisées et les donner à des familles chrétiennes qui vont leur offrir un meilleur futur.
C'est un acte de civilisation.
Sí, sí. Esto es el concepto, ¿no?
Ça, c'est le concept, oui.
Por eso está tan implicada la Iglesia Católica en el tema de los niños robados en España.
C'est pour ça que l'Église catholique est aussi impliquée dans l'histoire des vols des enfants en Espagne.
Con su moral.
C'est en relation avec sa morale.
Si dentro entra en una clínica una mujer joven.
Donc si dans une clinique une femme jeune
soltera,
rentre célibataire
y aparentemente de clase baja o medio baja,
de classe sociale défavorisée ou moyenne,
esa mujer ya tiene una etiqueta.
Donc cette femme est automatiquement étiquetée.
¿Por qué? Porque si yo tengo una petición de un niño, los niños no se roban porque sí.
Parce que si moi j'ai déjà la demande pour un enfant, parce que les enfants n'étaient pas volés comme ça par plaisir.
Se roban bajo pedido.
Ils se volent parce qu'il y a une demande.
Hay alguien que quiere un niño.
Il y a un demandeur.
Cada demanda crea la oferta.
C'est la demande qui crée l'offre.
No se puede decir que el franquismo desapareciera el 20 de noviembre de 75.
On ne peut pas dire que le franquisme a disparu le 20 novembre 1975, à la mort de Franco.
Me remito a lo que ha pasado con Garzón.
Pour preuve, ce qui est arrivé au juge Garzón.
Es que ha sido una auténtica aberración jurídica. Y lo digo donde haga falta decirlo.
Parce que c'est une aberration juridique.
Le han acusado a Garzón, ha sido Falange Española.
Ceux qui ont accusé le juge Garzón, c'est la Falange Espagnole.
Es como si ahora se permitiese que las juventudes hitlerianas acusaran a un juez en Alemania.
C'est comme si aujourd'hui les jeunesses hitlériennes accusaient un juge en Allemagne aujourd'hui.
La guerre civile, c'est la foi. Pour ceux qui veillent sur l'Espagne éternelle. Pour ceux qui veillent sur l'empire de Charles Quint et du Christ roi. Pour les descendants des conquistadors. Pour ceux qui ont toujours besoin de croisades.
Franco dit, nous sommes catholiques. En Espagne, on est catholique ou on n'est rien.
Oui, mais quand même, 30 000 cas de bébés volés dans les années 40 et 50, ça passe pas inaperçu dans l'opinion. Les gens le savent.
Ahora, cuando yo he empezado a remover esto, la gente se ha escandalizado.
Moi, quand j'ai commencé à révéler ces choses, les personnes se sont été scandalisées.
Pienso que es una actitud hipócrita.
Je pense que c'est une attitude hypocrite.
Porque esto, digamos, en voz populi, la gente sabía que esto estaba ocurriendo.
Parce que les gens savaient, la vox populi savait ce qui se passait.
¿Por qué? Pues porque la gente, las mujeres sobre todo entre ellas, comentaban dónde tenían que ir para encontrar un niño.
Parce que les femmes pouvaient se dire entre elles et savaient où elles pouvaient trouver un enfant.
Par exemple, en la cola del pan, en los años 60, por ejemplo.
Par exemple, dans les années 60, en faisant la queue à la boulangerie pour acheter du pain.
Siempre había alguien cerca que le decía, no te preocupes, te vas a buscar a esta monja, a esta matrona o a este médico y seguro que si no es este mes el que viene, te buscan un niño.
Et alors, il y avait tout le temps quelqu'un pour lui dire si tu n'as qu'à aller voir cette bonne sœur ou cette sage-femme, cette infirmière ou ce docteur, et il te trouvera, si ce n'est pas ce mois-ci, le mois prochain, une solution.
Se han exportado niños fuera de España.
Donc, on a exporté aussi des enfants à l'étranger.
Venezuela, México,
Venezuela, Mexique,
et Estados Unidos.
Et aux États-Unis.
Et en el norte de España, en Vizcaya, han salido niños para Centro Europa.
Et au nord de l'Espagne, en Vizcaya, il y a des enfants qui sont partis pour le centre de l'Europe.
Esto era un mercado.
C'était un marché.
Garçon parle de 300 000 cas.
Hombre, me parece posible extrapolando las los en función de ese núcleo duro y la expansión de una práctica.
Oui, oui, moi je pense que c'est possible si on extrapole par rapport à ce qu'on sait déjà, ce noyau dur.
Nos ocupamos de todo.
Nous nous occupons de tout.
Era la frase que se empleaba sistemáticamente. Nos ocupamos de todo.
C'était la phrase qui était utilisée systématiquement dans ces
Cuando
cas-là.
Se le decía a la madre que su niño había muerto,
quand on disait à une mère que son enfant était mort.
La madre decía, quiero ver a mi hijo para enterrarle yo.
Et la femme disait, je veux voir mon enfant pour l'enterrer moi-même.
Systématicamente.
Systématiquement.
Se le decía siempre, nos ocupamos de
on
todo.
On lui disait, nous nous occupons de tout.
Ce sera la phrase du jour et qui nous tiendra jusqu'à demain 15h. Nos ocupamos de todo. C'était Les Enfants volés d'Espagne, un reportage avec Antoine Chao. La suite donc demain à 15h. Merci à Maria Luisa Torres, Mar Soriano, Francisco González de Tena et Emilio Silva Berrera. Merci aussi à Sandrine Mercier, Natalia Junquera, Montserrat Armégou. Et puis, sur ce sujet des bébés volés, ne manquez pas demain soir à 20h50 sur France 5, le documentaire « Une vie volée » réalisé par Laurence Jourdan. On ne l'a pas vu, mais on le regardera avec beaucoup d'intérêt puisque c'est sur ce même sujet. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission « Là-bas, si j'y suis » où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. Puis, on peut se retrouver aussi, si vous le voulez, sur notre page Facebook, la page Facebook de « Là-bas, si j'y suis ». Sandrine Laurent et Nicolas Slimani étaient à la technique aujourd'hui. Franck Aderer et Bertrand Chemeton ont réalisé cette émission assistée de Marina Touillez et Grégory Salomonovitch. Attends vos messages sur le répondeur de la base si j'y suis au 01 56 40 37 37. Nos ocupamos de todo.
Non mais tu le crois ça? Hier, 23h, retour de week-end, en panne au milieu de nulle part.
Attends, ne me dis rien. La dépanneuse te dépose sur le parking du garage le plus miteux du patelin, forcément fermé. Bref, t'es piéton et ça va te coûter un peu.
À la GMF, les idées reçues, nous, on les plaque. En cas de panne, non seulement nous vous venons en aide, mais en plus, nous pouvons prendre en charge et payer les réparations. C'est ça, une bonne assurance.
GMF, assurément humain.
Voir conditions et détails des prestations en agence ou sur gmf.fr.
Dans son livre « Savoir tout faire du bon jardinier », Alain Baraton dévoile ses conseils pour créer et entretenir jardins, terrasses et balcons. Plus de 400 fiches pratiques, un calendrier des travaux, une mine d'idées pour l'aménagement paysager des espaces et l'entretien d'un jardin potager et fruitier. « Savoir tout faire du bon jardinier » d'Alain Baraton, une coédition France Inter. Le guide de référence à se procurer d'urgence.
À demain 15h donc pour là-bas si j'y suis, je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
Dans l'affaire des meurtres en série dans l'Essonne, le principal suspect devrait être mis en examen dans l'après-midi. Des armes ont été retrouvées lors des perquisitions à son domicile. La police ne confirme pas pour l'instant que le pistolet semi-automatique retrouvé est celui qui a tué à 4 reprises dans l'Essonne, donc entre novembre dernier et avril. La première journée d'audience du procès Breivik à Oslo est terminée. Au cours de ces premières heures, on a pu voir l'auteur du massacre de l'été dernier à Oslo, donc et sur l'île d'Utøya, faire le salut de l'extrême droite. Il a déclaré vouloir plaider non coupable des meurtres qui lui sont reprochés, 77 au total. Ensuite, le procureur a diffusé la vidéo des explosions à Oslo, tirée des caméras de surveillance. L'appel de détresse d'une jeune femme sur l'île d'Utøya à la police a également été entendu. L'accusé aux 77 meurtres donc est demeuré impassible. Le procès lui reprendra demain. Breivik devrait donner les explications de son geste. Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne aujourd'hui avec fermeté, ce sont ces mots, le tir manqué du 13 avril dernier d'une fusée nord-coréenne. L'ONU demande à son comité de sanctions d'examiner maintenant la possibilité d'étendre sa liste noire des biens, sociétés et individus sanctionnés. Une déclaration officielle selon des diplomates devait être prise dans ce sens dans les heures qui viennent. La Russie, confortée par l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDEH s'est déclarée incompétente aujourd'hui pour juger si la Russie avait violé l'obligation d'enquêter sur la perte de vie humaine dans le massacre de Katyn. 22 000 officiers polonais ont été tués par l'armée soviétique en 1940. Du coup, donc, Moscou a décidé de clore l'enquête. En revanche, la Cour européenne de Strasbourg s'est dite frappée par l'évidente réticence des autorités russes à admettre la réalité du massacre. Après la presse espagnole, c'est au tour des défenseurs des animaux de s'en prendre à Juan Carlos aujourd'hui. Il dénonce l'attitude du roi d'Espagne, parti chasser l'éléphant au Botswana. Le voyage qui a coûté la bagatelle de 30 000 euros aurait dû rester secret si Juan Carlos n'avait pas fait une chute et s'était fracturé la hanche. Opéré samedi à Madrid, les médecins affirment qu'il récupère bien. En tout cas, cette affaire passe mal en Espagne à double titre, en pleine période en fait d'austérité. Aujourd'hui, le ministre de l'économie espagnole a admis que son pays était à nouveau tombé en récession, la deuxième fois depuis 2009. Les vols à destination de Gatwick, près de Londres, ont été suspendus quelques heures cet après-midi. Un Airbus A330-300 de la compagnie Virgin Atlantic a dû atterrir d'urgence sans faire de blessés. Un feu s'est déclaré en fait à l'intérieur de l'appareil. Les vols ont repris depuis. Un menu, un morceau de moquette, un télégramme, un ticket et j'en passe. 100 ans après son naufrage, des objets du Titanic ont été vendus aux enchères hier soir à New York. Sachez que le menu du soir du 12 avril, nuit du drame, a été adjugé à 31 250 dollars et le télégramme dans lequel l'équipage disait « Nous avons heurté un iceberg » a trouvé preneur pour 27 500 dollars. Vous écoutez France Inter à plusieurs millions de dollars, 16h04.
Soir à partir de 20h.
Hey, this is Norah Jones.
Concert événement de Norah Jones en direct sur France Inter.
Quelques jours avant la sortie de son tout nouvel album, Norah Jones passe par le studio 105 pour un concert unique et vous présente en avant-première les titres de son dernier opus. Norah Jones en live sur France Inter. Un concert exclusif.
Be sure to listen to my exclusive show on France Inter.
Une soirée exceptionnelle présentée par Didier Varro. À suivre vendredi soir à partir de 20h. Toutes les infos sur franceinter.fr. France Inter. La différence.
Allez au boulot, Frédéric Lodéon, c'est à vous.
Ah bah avec plaisir, chère Laetitia. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Ça y est, vous savez tout sur le Titanic. Maintenant, dernier détail, grâce à Laetitia Gaillet. Presque tout, on va dire plutôt, parce que moi, j'ai reçu un document merveilleux, c'est de la part d'un auditeur, monsieur Yves Briand, et qui nous prodigue des merveilles, c'est-à-dire le répertoire qui a été joué sur le Titanic. Donc, il y a un menu, en quelque sorte, comme on distribue au restaurant, et c'est marqué White Star Line Music, toute la musique, ou enfin, on peut supposer une partie, parce qu'il y a des etc. quand même. À la fin, on voit rajouter valse de Strauss, valse de Waldteufel, etc., etc. Donc, toute cette musique qui était jouée par les musiciens du Titanic en général, évidemment, ce n'est pas un grand orchestre qui était à bord, il y avait un ensemble plus réduit que ce qu'on va entendre, mais enfin, quand même, l'intention était belle. Et puis, je vais citer une lettre qui m'a été jointe par Yves Briand. C'est ce que rappelle une des passagères. À bord, rien n'était plus apprécié que l'orchestre. Avant le dîner, il jouait une sérénade de musique légère aux passagers, puis après le repas, un concert avait lieu dans le salon, le grand hall d'accueil, et il y a eu aussi, évidemment, après le naufrage, des moments très, très touchants, bouleversants même, puisque on sait qu'au moment où le Titanic a heurté l'iceberg, les musiciens se sont réunis dans le grand salon de première classe et ont joué des airs entraînants. Ils se sont rendus au niveau du pont des embarcations, ensuite, près du grand escalier, et plus tard encore, sur le pont lui-même, là où les passagers montaient dans les canots de sauvetage avant qu'ils ne soient mis à l'eau. Il est hors de doute que ces musiciens firent preuve d'héroïsme en consacrant leurs derniers instants à encourager les autres. Alors il y a par exemple l'ouverture de Guillaume Tell, mais je ne vais pas la diffuser puisque c'est le générique de notre émission, la charge de la cavalerie de cette belle ouverture de Rossini. Mais je vous propose une pièce qui était jouée certainement assez souvent parce qu'elle est vraiment très entraînante. C'est Un matin, un midi, un soir à Vienne de Franz von Zuppé, musicien autrichien né en Croatie d'origine belge, enfin tout ça, musicien avant tout et surtout doué d'une plume absolument virtuose.